Alors bonjour à tous, histoire d'en savoir plus sur Radio Grand Ciel, au micro Elisabeth Couget. Quand on cherche une idée pour une émission comme Histoire d'en savoir plus, qui peut toucher des sujets extrêmement variés et très divers, quelquefois on a du mal à la trouver. Et pourtant, très souvent, l'idée est juste devant nous, à la portée de la main. Ou je pourrais dire aujourd'hui, à la portée de l'oreille. Car j'ai rencontré mon invité de ce jour au grand cœur du Conservatoire de Chartres, où nous chantons tous les deux. Notre sujet pourtant n'est pas la musique, mon invité n'est pas là pour chanter, quoiqu'il a une jolie voix, mais pour qu'il nous raconte comment devient-on d'un haut fonctionnaire un romancier ou d'un romancier haut fonctionnaire. Comme vous voulez. Alors, bonjour Manuel Corduan.
Bonjour Elisabeth.
Bienvenue sur Radio Grand Ciel. On va parler plus tard des romans qui est finalement le sujet plus important de notre jour. Mais d'abord, parlons un peu de vous. Alors, qui êtes-vous, Manuel Corduan ?
Vous voulez quoi ? Ma taille, ma date de naissance ?
Non, vous êtes plus grande que moi, donc c'est très bien déjà. Ça commence bien. Mais non, vous avez vécu dans beaucoup de pays. Vous êtes né dans quel pays, par exemple ? Puisque la France est un pays multiculturel, on peut venir de partout.
On peut en effet commencer par là. J'ai failli naître à Hanoï. Ça m'aurait rendu plus intéressant, mais je suis plus modestement né à Boulogne-Billancourt. Enfin, Boulogne, à l'époque, c'était les Hauts-de-Seine. Il y avait pas, le département des Hauts-de-Seine n'existait pas, c'était encore le département de la Seine. Et ce qui me vaut d'avoir le numéro 75 dans mon numéro de sécurité sociale et pas 92. Bon, tout ça n'a pas beaucoup d'importance. Ce qui est plus important, effectivement, c'est que j'ai eu l'occasion... J'ai eu la chance d'abord, je dis quelquefois, la double façade maritime atlantique et méditerranée. Je m'explique, mon père était un homme de l'Atlantique et ma mère une femme de la Méditerranée. Alors c'est une rencontre. Je dis « était » parce que malheureusement, ils ne sont plus ni l'un ni l'autre. Ouais. Oui, pas seulement les couleurs de la mer sont différentes. Il y en a une qui est beaucoup plus en mouvement que l'autre, mais effectivement... il suffit de se promener du côté de Gibraltar pour constater que la rencontre des deux mers provoque certains effets de couleur, de mouvement. Et effectivement, c'était important pour moi, l'enfant. D'autant que j'ai effectivement beaucoup voyagé, vécu en Afrique du Nord, qui était la région de ma mère, si vous voulez, puisque c'était une Algéroise. Et j'ai été très marqué... non pas par les quelques mois que j'ai passés à Alger quand j'étais tout jeune, mais par les 2 ou 3 ans que j'ai passés ensuite à Carthage, où entre 2 et 5 ans, où j'ai vécu dans la lumière, dans une certaine ambiance, et je pense que ça m'a marqué durablement.
Donc en fait, elle était pied noir, comme on dit.
Elle était pied noir, même si je vous rappelle que cette appellation pied noir est très récente,
oui,
elle date des années 60.
Oui, ah bon ?
Elle n'existait pas avant, même après la guerre. On ne parlait pas des pieds noirs. On a commencé à parler des pieds noirs lorsque l'administration française s'est réfugiée, entre guillemets, au moment des événements d'Algérie, sur ce qu'on appelle le rocher noir, le rocher noir qui est en face d'Alger.
D'accord. Et vos études, alors, vous les avez effectuées en France ou ailleurs ?
Mes études, pour l'essentiel, oui. Après l'Afrique du Nord, mes parents sont allés, des professeurs tous les deux. Ils ont été nommés à Toulouse, où j'ai failli aller à l'école maternelle, mais j'étais très, très, très récalcitrant. J'étais très mauvais élève. Je suis allé à l'école très tard. Je suis un très mauvais exemple. Voilà, je ne voulais pas quitter ma nounou, ma maman, ma maison. Et j'avais un petit peu peur qu'enfant, j'étais comme ça, du contact avec les autres garçons. Parce que j'aime mieux vous dire qu'à l'époque, les écoles maternelles ou élémentaires n'étaient pas mixtes. Et ensuite, j'ai adoré le contact. Mais voilà, c'est un changement parmi d'autres changements. Et pour les études, pour l'essentiel, j'ai commencé enfin à aller à l'école élémentaire. Oui, mais mes parents étaient déjà à Paris. Et puis ensuite, une scolarité s'est déroulée.
Normal.
Tout à fait normal. Oui, oui et non. Avec des hauts et des bas, j'étais quelquefois très bon élève, ensuite mauvais élève.
Bon, je crois que des études, on a suffisamment parlé pour passer au chant, puisque dans mon introduction, je parlais de la musique et du chant que vous pratiquez au grand bonheur et au plus grand bonheur de notre chef bien-aimé Philippe Frémont, qui adore les belles voix et surtout les hommes, il en manque souvent. Donc bienvenue au Grand Cœur aussi, pour ceux qui nous veulent nous écouter, et je pense que vous êtes heureux d'en faire partie.
À beaucoup, et moi ça fait un petit peu partie de ma philosophie professionnelle. Quand je suis quelque part, je trouve que c'est très important de partager les activités avec les gens qui vivent à l'endroit où je travaille. C'est vraiment, pour moi, un article de foi, je dirais. Hein. C'est une conviction profonde. Parce que c'est ainsi même que le reste du travail devient intéressant. Ça le met en perspective. Alors après, suivant ses goûts, on peut se consacrer à différentes activités. Moi, mes goûts me poussent plutôt vers, effectivement, la musique, la littérature, le théâtre. Et c'est donc dans ce domaine que je pratique. Dans un poste précédent à Bourges, j'ai fait aussi partie du Grand Chœur de Bourges et j'ai toujours beaucoup chanté dans ma vie et je suis ravi de chanter au Grand Chœur de Chartres. Ça fait vraiment partie des choses qui sont importantes dans ma vie à Chartres, oui.
Et l'écriture, puisque finalement c'est notre sujet d'aujourd'hui.
Ah ben juste l'écriture, pour dire quelque chose, reprendre quelque chose que vous disiez, la question de votre introduction, c'est-à-dire que moi, ma vocation d'écrivain précède largement ma vocation professionnelle. Donc, pour moi, tandis qu'évidemment, lorsque je rencontre des gens, ils se demandent pourquoi j'écris alors que mon métier est différent. Mais donc, j'ai tendance à renverser la question et leur dire, écoutez, je continue à cultiver une passion de toujours.
Ah, ça, c'est bien ça. Mais vous avez toujours écrit déjà des petits textes ou des poésies ou des nouvelles ou un roman jamais sorti qui est au fond d'un tiroir, toujours.
Ah bah ça oui, j'en ai publié 4 des romans, puis 2 essais par ailleurs, mais pour les 4 romans, avant de publier 4 romans, figurez-vous qu'il y en a un certain nombre qui sont restés au tiroir. Il ne faut pas croire comme ça qu'on publie, enfin moi je ne crois pas en tout cas qu'on publie comme ça très si facilement, c'est vraiment difficile. Hein.
Parce que faut-il pour écrire un roman?
Oui, mais alors attendez, avant le roman, je réponds à la question précédente.
Je fais comme
quand j'avais, 12-14 ans, j'écrivais des carnets intimes comme beaucoup d'adolescents, mais surtout j'avais la vocation épique. Je voulais écrire des épopées, et c'est ça qui me plaisait. Donc j'ai commencé par écrire de la poésie. Monsieur de Malézieux, sujet de dissertation littéraire, disait au XVIIIe siècle, le français n'a pas la tête épique. Eh bien, moi je pense que c'est pas vrai en ce qui me concerne, j'avais la tête épique, mais enfin ça n'a jamais accouché d'une œuvre majeure, donc ensuite je me suis reconverti au roman, effectivement.
Effectivement, notre plus grand plaisir, je vous assure. Hein. Alors, qu'est-ce que vous apporte finalement l'écriture? C'est un repos, c'est une détente, c'est un plaisir, bien sûr.
Moi qui étais marin, qui gardais beaucoup de goût pour la mer, je vous dirais que ça permet de tirer un bord, comme disent les marins. Tirer un bord, ça veut dire passer à autre chose. Et effectivement, je trouve que nous avons tous besoin, tout de même, la musique est un ressourcement, l'écriture c'est aussi un ressourcement, et... ça part effectivement, c'est compliqué à expliquer en quelques mots. Si vous voulez, les écrivains normalement ne devraient pas écrire. Il est tellement plus agréable de rester dans son fauteuil à lire ou à regarder la télévision plutôt que se fatiguer à écrire. D'autant que je ne suis pas du tout quelqu'un qui a l'écriture facile. Hein. Donc les phrases sont sans cesse à remettre sur le métier. Donc mais c'est quelque chose de l'ordre de la création. Vous savez, un certain nombre d'entre nous ont cette espèce de démon de la création. Ils veulent créer comme ça. Je ne sais pas si c'est un ersatz d'éternité. Le goût de l'art, le goût de l'œuvre bien faite tout de même, le goût de la chose que les autres aiment, apprécient, un moyen de communiquer avec autrui, et voilà, ça fait déjà pas mal de raisons.
Alors je crois maintenant, on verra plus tard que faut-il pour écrire un roman, parce que c'était ma question, mais on en parlera. Là, je vous propose une courte, très courte pause musicale avant de rentrer dans le vif du sujet, dans la deuxième partie de notre émission. En attendant, écoutons Beethoven, que vous répétez actuellement, mais c'est une version juste orchestrale. Alors, mon invité d'aujourd'hui dans notre émission Histoire d'en savoir plus, c'est l'écrivain Manuel Cordouan. Au fait, c'est un pseudonyme ?
Ah oui, c'est un pseudonyme.
Et d'où vient-elle ?
Eh bien, il vient du nom d'un phare. Vous savez que les écrivains aiment bien porter le nom d'un phare. Et il se trouve que c'est un phare que j'ai la chance de contempler de la plage qui est à côté de la maison familiale du côté de mon père, disons pour simplifier les choses, c'est l'île de Léron. C'est un phare qui est à l'embouchure de la Gironde, donc qu'on aperçoit le soir. Et donc ça, c'est pour le Cordouan. Et puis
Emmanuel, pourquoi ?
Emmanuel, parce que c'est un nom espagnol et la famille de ma mère était d'origine de Cordoue. Donc dans Cordoue, je réussis d'ailleurs également à la placer. Emmanuel, c'est aussi une allusion au prénom de ma sœur disparue.
Ah voilà, d'accord. Alors c'est une jolie, jolie histoire.
Beaucoup de choses.
Vous vouliez tout à l'heure, en l'entracte, vous vouliez dire que pour la musique, vous avez encore quelque chose à nous dire ?
Oui, parce que j'ai un petit message à adresser à vos auditeurs. Pour être heureux, il faut pratiquer les choses qui vous ont rendu heureux dans votre enfance.
Vous êtes un philosophe ?
Ah ben de formation.
Ah ben oui, c'est vrai.
De formation, oui, absolument. Mais c'est profondément vrai. Moi, j'ai toujours aimé chanter, et même avant d'écrire d'ailleurs. Et pourquoi ? C'est parce que pour moi, en famille, quand j'étais enfant, le chant, c'était des moments de bonheur. Il n'y avait pas toujours des moments de grand bonheur en famille, ce n'était pas tout le temps. Mais là, c'était le bonheur. J'incite tout le monde à faire la même chose.
Je crois que la prochaine fois, je vais vous inviter juste pour chanter. On va chanter tous les deux, pourquoi pas. Ça serait avec plaisir, mais maintenant, parlons des 4 romans qui ont paru jusqu'à nos jours. Donc je donne les titres, si tu t'imagines, Le Vertige de Clémence, Les Amandes d'Alger et La Carte Maîtresse en dernier. J'ai eu l'occasion d'en lire deux, le numéro 2 et le dernier. Les deux sont extrêmement différents l'un de l'autre. Je les aimais pour des raisons très différentes, mais parlons d'abord du premier, dont le titre, si tu t'imagines, fait immédiatement penser à Juliette Gréco.
Oui, c'est ça. Absolument.
C'est la chanson.
Oui, c'est la chanson de Juliette Gréco, bien entendu. « Si tu t'imagines, fillette, fillette », et ainsi de suite. Et oui, et ça parce que, si vous voulez, ça décrit une époque, l'époque de l'après-Deuxième Guerre mondiale, qui m'intéressait beaucoup comme historien. Enfin, je suis pas un historien de profession, mais c'est une période que j'aime beaucoup, la période qui a suivi la catastrophe du nazisme, la victoire sur le nazisme. Et c'est une époque où il y avait Saint-Germain-des-Prés, les philosophes, toutes choses qui m'intéressent aussi beaucoup.
C'est son sujet d'ailleurs, non ?
C'est le sujet, c'est absolument le sujet.
Alors j'ai lu quelque part que les deux héros de, si tu t'imagines, Paul et Myriam, vont se retrouver dans votre numéro 3, c'est ça ?
Les Amandes d'Alger. Oui.
Et c'est la suite de Si tu t'imagines ?
D'une certaine façon, oui, c'est la suite, absolument. Ça peut se lire séparément, mais c'est un petit peu comme, vous savez, le 20 ans après qui suit le premier roman de Dumas, dont le nom va me revenir, Les 4 Mousquetaires, voilà.
Mm-hmm. C'est oui, un peu effectivement. Ça, ouais. Effectivement. Ce sont des livres autobiographiques, c'est un peu votre histoire de famille, plus ou
oui,
moins. Enfin...
Plus ou moins l'histoire de famille, transposée, bien sûr. Et là-dessus, moi, j'explique toujours que l'autobiographie, il est naturel qu'un artiste, parce que c'est pas seulement vrai d'un écrivain, c'est vrai d'un musicien, c'est vrai d'un peintre, aille prendre des sujets qui lui sont familiers. J'ai tendance à espérer qu'il soit meilleur traitant de sujets qui lui sont affectivement plus présents que d'aller chercher des sujets lointains. Là aussi, c'est une conviction. Je dis ça pour compenser un peu le mauvais procès quelquefois que certains font à l'autobiographie. Oh, ben celui-là, il ne se fatigue pas, il raconte ce qu'il sait déjà par cœur. Mais pas du tout, ce n'est pas ça. Au contraire, si vous voulez posséder un sujet, le traiter parfaitement, il faut déjà en avoir fait le tour plusieurs fois.
Alors, Les Amandes d'Alger se passent à Alger, comme
Les Amandes d'Alger se passent à Alger.
Vous le connaissez, Alger ?
J'ai passé trois mois dans ma vie, c'était la bataille d'Alger. Donc, et puis ensuite, j'y suis retourné en tout et pour tout 2 jours ou 3 jours avec la sécurité civile il y a une dizaine d'années. Autant dire que je l'ai réinventé un petit peu.
J'aimerais que vous nous parliez de ce roman numéro 2 que j'ai vraiment aimé tout particulièrement, qui s'appelle Le Vertige de Clémence. C'est une magnifique conversation entre le narrateur et un ange qui est censé être... C'est votre sœur ?
C'est ma sœur transposée. C'est l'occasion de vous dire un peu ma conception du roman. Le roman, on n'écrit pas un roman uniquement à partir d'une idée, d'une émotion ou justement d'une histoire autobiographique. Ça suffit pas, ça ne tient pas. Un roman, c'est une forme. Il faut lui donner une forme et pour ça, il faut avoir des idées. Si on n'aura peut-être pas le temps, mais je vous expliquerai comment je m'y suis pris peut-être une autre fois pour Le Vertige de Clémence. Si vous voulez créer une œuvre, c'est vrai de la 9e symphonie, comme je vous dis, du Vertige de Clémence ou d'une sculpture ou de tout ce que vous voudrez, il faut avoir l'idée d'une quelque chose qui, on dirait en philosophie, subsume, c'est un terme un peu savant, mais dépasse un peu le contenu que vous voulez exprimer et lui donne une forme. Si vous n'avez pas de forme, eh bien, il n'y a pas d'expression d'un contenu qui frappe un lecteur et qui le touche, vous voyez ? Ça, c'est très important.
Alors, je trouvais dans les deux livres également que vous citez souvent l'évangile ou les évangiles. Êtes-vous religieux ou dans votre âme ou dans vos croyances ?
Ben, je cite les évangiles, il me semble que je cite la Bible aussi en général. Mais, et puis,
en tout cas, vous avez une grande connaissance.
Oui, je crois que moi, je ne suis pas très religieux personnellement, honnêtement, mais la religion, ma famille, c'était une histoire un peu compliquée, n'insistons pas, mais j'ai un infini respect pour la religion et surtout, je crois que la religion, c'est un des langages de l'enfance. Vous m'entendrez souvent répéter de l'enfance. Vous savez, l'enfance, c'est la période essentielle de notre vie. On a du mal à y croire, mais c'est pourtant vrai. Ça dure peu de temps et c'est déjà passé. Oui, mais quand même, c'est comme ça. Ce qu'on a aimé, ce qui vous a touché, la musique, la religion, la littérature,
voilà. Les odeurs,
ça continue à vous poursuivre pour le meilleur ou pour le pire, mais là c'est pour le meilleur toute votre vie. C'est
alors
comme ça.
Votre dernier roman, La carte maîtresse, qui est paru il y a seulement quelques mois, il me semble, c'est ça, ou un an?
Il y a un an déjà, le temps passe vite.
Ça va vite. Il est vraiment très très différent du reste, je pense, et qui a l'air d'être éloigné de votre histoire familiale.
Oui, j'ai fait exprès. Je voulais justement montrer que j'étais capable de sortir un peu du cadre autobiographique de la famille et en plus me situer à cette époque, notre époque contemporaine, non pas dans l'histoire. Et aussi, je voulais, du point de vue de la forme, affronter le défi d'un roman au présent. Ça, c'est très important aussi. Parce que le temps naturel d'un roman, c'est le passé. Le passé, je n'ai pas le temps de vous démontrer tout ça.
On y reviendra encore un petit peu à la carte maîtresse.
Non, mais la carte maîtresse, c'est le récit en général. Parce que quand même, il faut faire un petit peu de théorie de la littérature. Si vous écrivez quelque chose au passé, vous êtes maître de votre récit quand vous écrivez. Si vous écrivez « La marquise sortit à 5 heures » pour reprendre, eh bien, vous êtes maître de décider ce qu'elle va faire après, comme vous voulez. Si vous écrivez « La marquise sort à 5 heures », vous êtes immédiatement, pratiquement commis par votre propre écriture à dire dans la phrase suivante ce qu'elle va faire.
Exactement.
Et c'est très différent. Quand vous écrivez au présent un roman, vous êtes contemporain de votre propre écriture. Et c'est beaucoup plus difficile. Et c'est ce défi-là que je voulais relever.
C'est pas pour rien qu'on devient facilement écrivain. C'est pas évident.
Non, mais
quand
vous faites un essai, vous-même écrivez une petite histoire, vous allez, naturellement, elle va vous venir au passé. C'est normal.
C'est vrai que cette question ne s'est pas posée, mais c'est tout à fait évident. Alors, après cette très très courte présentation, on a survolé les quatre romans parus. Nous allons encore avoir une nouvelle coupure musicale. Voilà. Et nous nous retrouverons après pour continuer à bavarder avec Manuel Cordon. Thank you. dans ces très belles notes de Beethoven, nous avons eu une rapide aperçu de vos 4 romans Manuel Cordouan. Mais en plus de ces parutions, avez-vous écrit autre chose aussi? Je pense aux essais politiques. Vous en avez touché un mot il y a un instant.
Oui, j'ai fait 2 essais politiques. J'en avais fait un avec mon père à 4 mains, justement, qui concerne les rapports entre la France et l'Allemagne, parce que c'était un sujet qui nous intéressait tous les deux, qui intéressait notre famille. Enfin bon, sa vie, tout ça est un peu compliqué à expliquer, mais c'est un essai qui voulait être... un peu intempestif au sens où il prenait différents thèmes de l'histoire franco-allemande, où il expliquait combien l'Allemagne et la France sont des États différents mais complémentaires, constituant le noyau de l'Europe. Enfin, tout ça, d'autres l'ont dit, c'est pas d'une originalité folle. Ce qui était intéressant, c'était de l'illustrer au travers d'un certain nombre de thèmes, la politique, la littérature, la religion et ainsi de suite.
Et ces essais ont précédé vos romans ou... en même temps ou...
Non, le premier essai, qui est effectivement le regard, les regards européens sur l'histoire franco-allemande, est paru pratiquement en même temps que Si tu t'imagines. Mm-hmm. Et le deuxième, alors, concerne mon expérience européenne. J'ai une expérience importante d'Europe, Europe de la sécurité en l'occurrence, et je voulais ensuite consigner un peu toutes les impressions que j'avais pu avoir. Et puis l'idée européenne me paraissait intéressante, donc dans un autre essai, effectivement. Mm-hmm.
Alors je reviens encore vers votre roman Vertige de Clémence qui m'a vraiment bouleversée et par son sujet et par son écriture. Cette écriture m'a vraiment, vraiment touchée, mais je ne veux pas revenir à ce drame familial que vous avez vécu, mais plutôt de votre aisance à vous déplacer dans toutes ces villes, dans Vienne en Autriche, à Zurich, à Sydney, à Pékin, je veux dire Beijing, mais c'est assez stupéfiant. Vous les connaissez toutes ces villes où vous y avez vécu ou...
Mais moi, je trouve, et on pourrait citer Alger pour les amants d'Alger et ainsi de suite, moi, je trouve qu'un lecteur, voyez-vous, quand on écrit, il faut penser un petit peu à son lecteur. Hein. Quand je dis un petit peu, c'est qu'il faut penser qu'à son lecteur, il faut penser qu'à ça. Il a aussi le droit de voyager. Moi, je pense que il faut aider l'imagination à s'évader, et on peut le faire, évidemment, avec les sentiments et tout, mais... Dans la carte maîtresse, c'est autre chose. J'ai voulu justement changer un petit peu de genre, mais je vais y revenir. Moi, je trouve que fondamentalement, la littérature, elle doit raconter le monde, c'est-à-dire les voyages, la découverte des autres. Et donc, toutes ces villes, je ne les connais pas, non ? Dans toutes celles que vous avez citées, Sydney, je n'ai jamais mis les pieds. Alger, pratiquement
ça a
pas.
Pas mal,
mais ça ne fait rien, ça permet de les imaginer. Et puis
on s'y croit. Hein.
Alors, en revanche, si, Zurich, Vienne, ça, je connais très bien.
Bien
même.
Sûr, j'ai l'impression.
Ouais.
Oui, effectivement. Alors, en lisant votre dernier roman, La carte maîtresse, je suis devenue presque doctoresse tarot grâce à vous. Vous y croyez, je veux dire, à ce qu'une carte comme ça tirée au hasard puisse vous dire de vous-même ou de ce qui vous attend, de ce qui va se passer.
Au risque de vous décevoir, Elisabeth, pas du tout. Mais en revanche, je crois à la valeur symbolique.
D'accord.
À la symbolique de la chose. C'est-à-dire que, d'ailleurs, le jeu de tarot est intéressant parce que c'est justement pas ça. On vous sort pas une carte et puis voilà. Le jeu de tarot m'a intéressé parce que quand on vous tire les tarots, on vous met devant des choix. Et c'est ça qui est intéressant. On ne vous dit pas, il va vous arriver ça, on vous met devant des choix. On dit, voilà, face à tel événement, comment réagirez-vous? Et c'est une situation existentielle, c'est la situation existentielle de l'être humain en vérité. Donc c'est profond, ça a une profonde valeur symbolique. Donc je ne fais pas tourner les tables, je suis un petit peu superstitieux, mais pas plus que ça. Je suis même relativement rationaliste.
Vous
ne
rentrez
si on
pas
veut.
Un parapluie dans une maison, ouvert, non? Ça ne se fait pas.
Je le fais. Je ne le fais pas exprès, mais je le fais pour éviter ensuite qu'il soit tout mouillé quand je l'ouvre, pour une raison toute
d'accord.
bête. Je ne le fais pas par défi, car encore une fois, j'ai horreur de tout ce qui est... On parlait de la religion tout à l'heure. Je crois qu'il ne faut jamais provoquer le destin, ou alors en un sens positif, mais c'est tout à fait autre chose. Voilà, je crois qu'il faut respecter les traditions, il ne faut pas s'en moquer. Et puis, après tout, s'il y a des proverbes populaires qui disent ceci et cela, vous savez, les proverbes populaires, ils se contredisent d'ailleurs souvent les uns les autres, ils ont des raisons d'exister. Voilà, tout ça pour dire quoi, au fait? C'est votre question?
Eh bien, c'était juste pour savoir si le tarot vous apportait quelque chose. Mais vous
il
rassurez,
a surtout,
vous rassurez.
Il a surtout apporté une forme au roman. Encore une fois, voilà la colonne vertébrale. C'est-à-dire, c'est l'histoire d'un garçon qui rencontre son copain. Son copain lui dit, ça n'a pas l'air de marcher très fort, on va tirer les tarots. C'est extrêmement simplifié. Mais ça vous donne une intrigue. Comme au théâtre, on parle d'une intrigue. Encore une fois, il ne suffit pas d'avoir des idées, des sentiments, des émotions. Il faut que tout ça se noue d'une d'une manière.
Alors,
ou d'une
maintenant,
autre.
On va parler peut-être de votre actualité, parce qu'on n'aura plus le temps. C'est tellement passionnant. Je crois qu'il faudrait que vous reveniez une nouvelle fois. On va parler de un peu plus approfondi tout ça. Alors, quelle est votre actualité ?
Mais l'actualité, vous me donnez le...
Je veux dire littéraire.
L'actualité littéraire, vous me donnez la liaison avec le Vertige de Clémence, parce que quand j'ai écrit le Vertige de Clémence, l'éditeur de l'époque m'avait dit bah, « tu te débrouilles pas trop mal pour les dialogues ». Et cette idée a cheminé. Des années après, j'ai fait donc une pièce de théâtre, ça s'appelle « Noce tardive ». Et je suis très content, effectivement, parce qu'elle va être jouée, en principe, les 11 et 12 décembre prochains, à Chartres. Mmh. Alors ça, c'est vraiment... Je n'ai jamais, encore une fois, assisté à une pièce de théâtre que j'ai écrite. C'est la première. Et donc, premier élément d'actualité, je vais vite pour qu'on ne soit pas rattrapé par le temps. Le deuxième, c'est avec le conservatoire que je voudrais reciter. Mmh. C'est le livret d'une pièce musicale que nous avons fait avec un professeur de conservatoire.
Et qui paraîtra, qui serait présenté à quel moment ?
Normalement, au printemps 2016.
Eh bien, et ça, c'est... On a le temps d'en reparler. Donc, bon. Pour les deux pièces, j'aimerais bien vous réinviter. On en reparlera.
Pourquoi pas ?
En tout cas, je sais que les répétitions ont commencé déjà, c'est ça ?
Oui, les répétitions ont commencé.
Et j'aurais voulu demander encore ce roman à quatre mains dont j'ai vaguement entendu parler, que vous avez écrit avec une femme, c'est ça ?
Oui.
Et ça...
Alors ça, est-ce que ce sera publié ? C'est dans le tiroir. Est-ce que ce sera publié ? Est-ce que ce ne sera pas publié ? Le genre à quatre mains, j'en avais tâté, si je puis dire, avec... D'ailleurs, il faudrait dire à deux mains, parce qu'on n'écrit qu'à une main. Hein, mais enfin, passons. Mais ce serait comme le piano. Mais comment dirais-je ? Pour un essai, je l'avais fait avec mon père. Ce n'était pas si facile. Pour un roman, c'est quand même très difficile. Nous sommes arrivés au bout. Mais après, est-ce qu'il sera publié ? On verra, je ne sais pas.
C'est quand même très différent.
C'est très différent.
Très différent entre un homme et une femme. On n'écrit pas de la même façon.
Non, ça, c'était l'idée de départ. En vérité, c'était mon idée de départ. Je me suis dit, après tout, pour comprendre la psychologie féminine, autant demander à une femme d'écrire avec moi. Mais je ne sais pas si c'était une très bonne idée, réflexion.
Bon, on verra.
Non, parce que je vais
si
vous
ça
dire.
Paraît.
Le roman à quatre mains, ou à deux mains, comme vous voudrez, il est très difficile parce que, comment dirais-je, on est tous différents les uns des autres.
Oui.
Il faut donc accepter quand même ces deux personnes à l'intérieur d'un même récit. Ça ne va pas de soi. D'accord. Mais je suis très content d'avoir
juste
fait l'expérience.
Juste une dernière question, puisque vraiment nous sommes à la fin de notre émission. Est-ce que pourriez-vous vivre sans écrire ?
Non.
Non.
Je ne peux pas. Je n'y arrive pas. Je serais plus peinard de temps en temps si je pouvais être tranquille. Je vous dis encore une fois, demain, je ne peux pas. Et sans chanter non plus.
Et d'ailleurs,
je n'ai pas envie.
Je redis à notre plus grande joie. Donc, ça serait le mot de la fin. On ne peut pas vivre sans écrire. Merci, Manuel Cordouan, de votre visite. J'espère que nous avons donné envie à nos auditeurs de vous relire, vous lire, vous découvrir à travers vos quatre romans. Alors, vous pourriez nous réécouter sur www.radiograndciel.fr. À bientôt pour une prochaine émission Histoire d'en savoir plus.